fond de la plus tendre et de la meilleure des âmes peuvent surgir des désirs d'intense violence. Un jour peut-être les hommes apprendront-ils à lutter contre ces monstres de l'esprit. Alors, et alors seulement, quand le cerveau humain sera vraiment capable de se contrôler, nous pourrons songer à utiliser les puissances cachées de l'univers.
N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. Septième dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast.
Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vérif signé 7ème Dimension. Rappel des faits, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel. Et en matière de cinéma de genre, et ben John Carpenter, ça se pose là. Hein. On continue un petit peu cette salve d'épisodes dédiés à la filmographie de John Carpenter, et ce, dans le désordre, hein, sinon on ne s'amuse pas. Et là, on va s'attaquer à la masterpiece. Voilà, on le dit d'entrée de jeu, au chef-d'œuvre, à sa pierre angulaire de sa filmographie, qui est son remake de The Thing. Voilà, la chose en version française. Alors, comme on en a l'habitude ici même, petit rappel des faits en ce qui concerne le maître Carpenter, Big John, nous sommes en 1982, on est sur, on va dire, le plateau de sa carrière, donc jusqu'à présent, c'est une ascension. C'est un réalisateur qui n'a eu de cesse, avec de très faibles budgets, de gravir les échelons, et il a fait trembler le box-office, déjà par une fois, avec un script qui, sur le papier, ne paye pas de mine, voilà, qui est l'histoire d'un tueur de babysitter, hein, voilà, et qui deviendra Halloween, et qui marquera durablement les esprits, que ça soit aux États-Unis, que ça soit de par le monde. En témoigne cette saga increvable à l'image de son boogeyman Michael Myers, alias The Shape. Donc, il fracasse le box-office avec Halloween, et il enchaîne aussi une perle à son actif, qui est le Escape from New York 1997, avec celui qui deviendra son acteur fétiche, c'est-à-dire Kurt Russell, dans le rôle de Snake Plissken, voilà, qu'il avait déjà mis en scène pour les besoins d'un téléfilm dédié à Elvis, le roman d'Elvis. Donc c'est un Carpenter qui est en pleine possession de ses moyens et surtout en odeur de sainteté au sein des studios. Voilà. Ce qu'il faut savoir avec ce projet de remake de The Thing, parce que on dit que c'est un remake, parce qu'il existe en fait un film qui date de 1951 avec lequel John Carpenter a grandi et bien d'autres cinéastes, qui s'appelle La Chose d'un autre monde, voilà, qui avait été réalisé par Christian Nibby, et il est de notoriété publique de dire qu'il a été surtout officieusement réalisé par Howard Hawks, et John Carpenter n'a jamais caché son amour du cinéaste Howard Hawks. Donc c'était tout naturel que si on ne le retrouve pas sur un remake de Rio Bravo, on le retrouve quelque part sur un remake d'un film où Howard Hawks aurait posé ses petites mains. Donc voilà, donc ça tombe plutôt bien. John Carpenter est un cinéaste de genre, voilà, donc cinéma de genre c'est large, hein, parce que gardez en tête que son premier effort officiel, voilà, donc pas le Dark Star, son premier effort officiel est Asso, donc c'est un thriller, c'est un polar, et que très rapidement Halloween va être un slasher et ensuite Escape from New York va être un film d'anticipation. Donc c'est vrai qu'on a affaire à un réalisateur, et j'oublie aussi bien entendu le film de Phantom, c'est un genre à part entière, qui est The Fog, voilà, qui et effectivement John Carpenter à ce moment-là de sa carrière, on peut dire que c'est un touche-à-tout qu'on pourrait qualifier de génie parce que chaque effort est transformé amplement. Voilà. Donc, il y a beaucoup de films dans sa filmographie qui ne sont pas forcément les films que l'on met en avant. Hein. On pense souvent, par exemple, à Starman, à The Fog, à Christine, et qui, pour autant, sont quelque part des tours de force. Voilà. Donc ça, on y reviendra quand je traiterai de chacun de ces films. Donc là, au moment de sa carrière, à ce moment-là, on a quand même un réalisateur qui intéresse beaucoup les studios. Et ce qu'il faut savoir avec ce remake, c'est que ça fait déjà quelques années que ça traîne, mais au départ, on ne souhaite pas le confier à Carpenter, on est vers le milieu des années 70, et effectivement, Carpenter n'a pas encore marqué les esprits avec notamment Halloween, et on lui préfère, lors du développement de ce scénario chez Universal, on lui préfère un tout jeune Toby Hooper qui vient lui de traumatiser le public avec Massacre à la tronçonneuse, et avec son scénariste de l'époque, Kim Henkel, on leur confie ben, en fait, le traitement de cette adaptation, qui sera, ça donnera pas suite, mais qui sera retravaillé par celui qui deviendra le scénariste officiel de cette adaptation, donc de ce remake de The Thing, qui sera Bill Lancaster, voilà, fils de Burt Lancaster, et dites-vous bien que on est quasiment sur du one-shot sur ce truc-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu 36 scénaristes, et surtout que le mec n'a pas fait grand-chose et ne fera rien par la suite, en fait. Voilà. Il est un peu à l'image, hein, je l'avais déjà évoqué dans un podcast précédent, du fils de Charlton Heston, Fraser C. Heston, qui devient réalisateur là, pour un one-shot, pour le bazar de l'épouvante, et qui fait un super film, et puis ben voilà, il vient une fois, et puis on le reverra plus. Voilà. Donc scénario de Bill Lancaster, et les studios de... au départ, avait refusé la candidature de Carpenter, mais suite au succès d'Halloween, refont appel à lui. Et chose intéressante à ce moment-là, c'est que là où Carpenter avait toqué à la porte en entendant parler de ce scénario, enfin de cette idée de produire un remake de The Thing, et on lui avait refusé poliment, et ben là, les studios attendront que le réalisateur puisse boucler son Escape from New York. Donc, comme dans toutes les grandes histoires de réalisation, hein, puisque si on prend le cas de Peter Jackson pour le Seigneur des Anneaux, c'est une histoire de réalisation, pour le Avatar James Cameron, et ainsi de suite, et ben, il va enchaîner, en fait, très rapidement, entre, à peine le temps de finir Escape from New York, qu'il bascule sur The Thing, et c'est aussi ce tournage, cette production, cette pré-prod, production, tournage, fabrication de The Thing, un luxe qu'il ne retrouvera plus par la suite dans sa carrière, c'est-à-dire que les studios l'attendent, et on va dire, entre le moment où il met les pieds dans la production et le moment où il livre le film, il y a plus d'un an qui s'écoule, donc, en gros, tous les curseurs sont montés au maximum, tout est aligné, que ça soit des techniciens qui lui sont confiés, le temps alloué pour la réécriture, pour que Carpenter puisse se réapproprier le matériau de Bill Lancaster, tout est aligné pour que Carpenter ait les moyens de ses ambitions. Voilà, que ça soit tant en termes de budget que des équipes techniques, de toute façon je vais y revenir sur tous ces petits points. Donc, on est dans une phase de sa carrière qui est peut-être l'une des plus intéressantes, c'est-à-dire qu'on a un réalisateur en totale confiance, qui a tout approuvé, et là, on lui donne les moyens de ses ambitions sur un matériau qui l'intéresse fortement. Donc, on peut dire, à partir de ce point de vue-là, sans prendre l'histoire de ce qui arrivera par la suite de The Thing, que les conditions sont réunies pour que Carpenter livre si ce n'est son meilleur film, mais au moins, du moins, un très bon film, et ça deviendra, bien entendu, comme je l'ai dit en préambule, la pierre angulaire de sa carrière. Vous sentez, hein, que je suis en train de redire... Alors, comme d'habitude, dans chaque épisode de podcast, l'idée, c'est de trouver un rythme dans la chronique, et je pense qu'on y arrive. Vous voyez, je commence à mettre de la respiration à l'intérieur. Donc, alors, reprenons le point de départ. Donc, la chose dans notre monde de Christian Nibi, c'est pas une œuvre originale pur jus. C'est-à-dire que c'est adapté d'une nouvelle. Cette nouvelle, c'est Ugozer, qui a été écrite par John W. Campbell. Et John W. Campbell, il a fait les grandes heures, en fait, des céréales, notamment de science-fiction, que consommaient des petits bambins comme John Carpenter ou autres réalisateurs. On lui doit notamment l'édition d'une revue, voilà, régulière, c'est pour ça qu'on parle de céréales, qui est notamment Astounding Science Fiction. Voilà. Donc, c'est un peu l'équivalent d'un Tales from the Crypt. Voilà, quand j'avais traité un petit peu, on va dire, du matériau de base à l'origine de la série. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est beaucoup d'amateurs notamment de réalisateurs qui passeront dans le genre, dans la science-fiction, etc., ont ce genre d'auteur comme référence. Alors, on pourra noter que le Bill Lancaster, là, le scénariste, notamment quand il intervient dans le fabuleux documentaire présent sur cette édition Blu-ray de The Thing, n'hésite pas à dire que bon, même si ça a marqué les esprits, cette nouvelle-là, c'est pas de la grande littérature. Bon, envie de te dire, Bill, j'aime bien ce genre de phrasé, c'est-à-dire que le mec a quand même fait juste un scénar dans sa vie. Bon, après, le scénar, c'est le scénar de The Thing, mais bon, peut-être qu'il a aussi l'honnêteté et la franchise de... Mais voilà, en tout cas, quand on le voit dans le documentaire, ça a quand même pas l'air d'un joyeux lion, le Bill Lancaster. Voilà, donc ça, c'était une petite parenthèse à ce niveau-là. Donc, effectivement, il y a ce matériau de base, et le sujet est simple, hein, on a une équipe de scientifiques, voilà le pitch hein, à l'origine, une équipe de scientifiques en Antarctique qui tombe sur les vestiges de ce qui s'avérera être une créature venue d'ailleurs, voilà, qui est enfermée dans la glace. Voilà, ça, c'est le point de départ. Particularité de cette créature, c'est que c'est une créature protéiforme, donc qui est capable de prendre toutes les formes possibles. Dans la nouvelle, c'était ça, en fait. Dans la nouvelle, elle prenait toutes les formes qu'elle pouvait rencontrer, alors que dans l'adaptation cinématographique de l'époque, bon, moyen technique oblige, on est plus parti sur un monstre en costume, mais qui à aucun moment ne sera équivalent à ce que va pouvoir faire John Carpenter par le biais de la révolution technologique que Rob Bottin va lui amener. Mais et c'est vraiment ce point de mire que va garder John Carpenter, c'est-à-dire qu'avec Bill Lancaster, ils vont essayer de revenir, voilà, sur le point de départ de la nouvelle, qui est une chose protéiforme, et travailler sur le côté paranoïaque de la chose. Voilà, le point de départ. Donc on est sur un scénario extrêmement classique, et classique ne veut pas dire faible, hein, c'est-à-dire très efficace dans la structure, un huis clos qui joue sur la paranoïa, avec un monstre tapis dans l'ombre et qui est capable en fait d'imiter toute forme de vie. Donc voilà le travail qui va être fait par Bill Lancaster et John Carpenter au niveau du scénario. Voilà. Alors, j'en ai pris l'habitude dans les podcasts précédents. Moi, comment j'ai découvert The Thing ? Alors, ce qu'il faut savoir me concernant, c'est que pour moi, The Thing, j'y suis venu un peu plus tard. Et j'avais cette image de John Carpenter, en tout cas dans mes jeunes années. Pour moi, John Carpenter, c'était assimilé à Jack Burton et Escape from New York. Donc j'avais cette image de artisan de série B maligne et efficace. Voilà. Et là, c'est vrai qu'avec avec The Thing, on a le côté un peu plus glorieux du réalisateur de studio avec un gros budget. Donc quand on le replace dans le contexte, en 1982, il est l'équivalent, à ce moment-là, parce qu'il a les coudées franches, il est l'équivalent d'un Steven Spielberg, en termes de budget, d'ambition, etc. Et c'est vrai que j'y suis venu un peu plus tard, et ce The Thing avait ce côté-là pour moi, j'avais l'impression d'avoir un Carpenter au carré, si vous voyez ce que je veux dire, un Carpenter plus, voilà, quand on regardait The Thing. Et... Ce The Thing, bien entendu, moi je l'ai découvert par le biais, alors c'est tout bête, hein, c'est Peterson qui m'avait passé sa copie VHS, qui l'avait enregistré notamment dans Les Jeudis de l'Angoisse sur M6, et pendant longtemps, ce film-là, je l'ai conservé en VHS, et j'ai pu l'apprécier d'autant plus avec la superbe édition DVD, déjà éditée par Universal à l'époque, blindée de bonus. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que la galette que je chronique aujourd'hui, hein, ce master Blu-ray de chez Universal, n'est juste que l'upgrade de cette édition collector DVD qui était sortie à l'époque. Hein. Ça reprend exactement les mêmes bonus, tellement que le docu qui est dessus, hein, qui dure 1h30, est en 4 tiers. Voilà. Donc, voilà pour le positionnement. C'est un film qui m'a marqué dans le sens où on est sur un film horrifique. Voilà. Alors oui, il y a un point de départ avec science-fictionnel, mais on est sur du pur film d'effroi. Et c'est l'une des rares fois où un cinéaste comme John Carpenter n'hésitera pas... Alors, il va travailler le suspense, hein, il va ménager les effets, mais il n'hésitera pas à nous envoyer en pleine face des visions horrifiques. Et dans son genre, qui est le sien, c'est-à-dire dans le genre du film d'horreur, on est à la lisière même du gore. Voilà. Donc, n'oubliez pas que le sous-genre, qui est le cinéma gore, hein, qui est un sous-genre du genre horrifique, n'explose que les années suivantes. Mais ce The Thing de John Carpenter est un des films précurseurs qui va préfigurer ce que sera la suite des années 80. Donc, alors, il aura énormément d'influence à plein de niveaux, mais là, j'en soulève déjà une. Il est annonciateur d'un Sam Raimi, d'un Stuart Gordon, d'un Brian Yuzna, de gens qui vont pousser les potards au maximum sur cette horreur graphique. Bien entendu, c'est possible aussi grâce à la révolution technique de Rob Bottin. C'est-à-dire qu'avant, ça ne l'était pas, ou pas autant. Avant, on va dire dans ce côté horrifique, les seuls qui avaient travaillé un petit peu le côté plus graphique de la chose étaient des gens comme Tom Savini, et ça se limitait à du zombie ou à du slasher tel Vendredi 13 ou autre. Donc là, c'est quand même une première. Et j'en ai parlé dans la chronique précédente dédiée à l'antre de la folie, c'est le plus Lovecraftien des films de Carpenter. On est typiquement dans ce Ugozer, si on prend la nouvelle de départ, et de ce qu'en fait John Carpenter à l'écran, ça pourrait être une adaptation de Lovecraft, parce que ces anciens, cette horreur cosmique, voilà, ce monstre protéiforme tentaculaire, parce que Rob Bottin, bien entendu, est allé à bonne école, à la même culture, la même base, va taper au niveau des écrits de Lovecraft. Donc, si on devait prendre un exemple, voilà, si par exemple, prendre un exemple par exemple, mec qui est dans l'ardite, si à une foule incrédule, on devait expliquer par l'image ce qu'est Lovecraft, on pourrait prendre certains passages de The Thing et leur montrer. Voilà, c'est typiquement le travail qui a été fait à l'image. Et c'est pour ça qu'aussi, le film est un chef-d'œuvre à bien des égards, notamment à ce niveau-là. Donc voilà, moi, c'est un film qui m'a choqué, marqué. Et il y a très peu d'humour à l'intérieur, ça débande pas en fait. Hein, c'est l'un des films les plus longs de Carpenter, hein, 1h49, voilà, on est quasiment sur 2h. Ça débande jamais, c'est focus. Il y a un choix aussi de faire, comme il le dit, un all-male cast, donc c'est-à-dire un casting entièrement constitué d'hommes. Donc il n'y a pas de... voilà, l'intrigue ne va pas aller nous amener de triangle amoureux ou d'autres choses. On ne dévie pas de sa route. Et c'est une lente et poisseuse descente aux enfers, teintée de paranoïa et l'indicible, pour une fois, contrairement à l'antre de la folie, hein, pour des raisons, comme j'ai expliqué, de budget ou autre, et on va dire de technicité des effets, là, on ne détourne pas le regard, on y va, quoi. C'est quasiment chirurgical, c'est le cas de le dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de scènes d'autopsie à l'intérieur, ce qui marquera d'autres réalisateurs par la suite. Donc, on est sur une masterpiece, un cas d'école, quelque chose qui se pose là, en fait, hein, à l'image d'un Evil Dead, à l'image d'un Massacre à la tronçonneuse, donc voilà. On peut se dire qu'à l'époque, quand on regarde la carrière d'un Carpenter, hein, quand on se tape Asso, Halloween, Escape from New York et The Thing, on peut se dire, bon, ben, laisse tomber, quoi, le mec est top niveau, il vient de nous enchaîner coup sur coup plusieurs films, il a tapé très 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 fort, voilà. Donc, ce film-là, rentrons dans le vif du sujet. Donc on a parlé du scénario, on a parlé du point de départ. Pour l'époque, on confie à Carpenter un budget de 15 millions de dollars. Voilà, 15 millions de dollars, avec l'inflation, on va dire qu'on serait dans la tranche haute des moyens budget d'aujourd'hui. Donc c'est 15 millions de dollars en 35 mm et va se constituer autour de lui une dream team de post-technique, parce que jusqu'à présent, on a un cinéaste de la débrouille. Hein. N'oubliez pas que Carpenter fait beaucoup de choses sur ses films, en plus de la musique. Donc là, il va avoir le luxe, déjà d'une, de sous-traiter la musique, parce que voilà, il a le luxe, cette fois-ci, de se concentrer uniquement sur l'image, la tension, la mise en scène, le jeu d'acteur, voilà, de vraiment de prendre le temps de faire les choses correctement. Alors, avant, c'est pas qu'ils ne les faisaient pas, mais on travaillait beaucoup dans l'urgence, donc ils se couvraient très peu. Donc effectivement, ils sous-traitent la musique, et ça, ça va revenir dans cette œuvre, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, même avec le temps, qui se révèlent. Ce film a un côté très 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 européen, déjà dans sa gestion des raccords, dans l'utilisation de ses fondus au noir, de ses fondus au blanc. J'ai même pu noter dans la fameuse scène du blood test, hein, du test sanguin, un jeu entre le fondu au noir et le jump cut, voilà, qui est très très inspiré de la nouvelle vague. Et donc pour appuyer ce côté, alors il y a un mélange de classicisme à la Hitchcock, vous verrez qu'il y a aussi des références au niveau des postes techniques, plus ce côté post-moderne qui est très bien dilué dans le film. C'est tellement efficace que je pense que je l'avais même pas noté à l'époque, ce genre d'effets de tests qui fonctionnent très bien. Donc voilà, d'enchaîner un jump cut via quasiment un fondu au noir. Et donc le côté européen de la chose se retrouve aussi au niveau de la musique. C'est une époque aussi où pas mal, alors là lui c'est l'un des premiers, parce que Brian De Palma retiendra la leçon et ira le chercher ensuite pour les besoins des Incorruptibles notamment, mais voilà, Carpenter va aller chercher Ennio Morricone. Alors, c'est pas anodin, hein. C'est un... Voilà, sa passion pour Ward Hawks, le western, donc forcément, il s'est goinfré du western spaghetti, donc forcément, on est sur une période, voilà, où on a un réalisateur qui a vu les films de Sergio Leone, donc il va nous chercher Ennio Morricone, et la grosse particularité, en fait, de cette bande originale d'Ennio Morricone, qui, dans ce qui a été retenu à l'écran, qui ne correspond pas à du Ennio Morricone, c'est du Ennio Morricone qui fait du John Carpenter. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que Carpenter, c'est tellement imposant comme patte qu'un mec comme Ennio Morricone, avec un autre cinéaste, aurait eu la liberté de faire bien ce qu'il veut. Là, le Ennio Morricone, il fait du Carpenter. Voilà. Et Carpenter l'explique très bien dans ce rapport qu'il a eu avec Ennio Morricone, où il va le chercher parce que lui, il sait clairement ce qu'il veut faire, et la seule personne en qui il a confiance pour lui confier la bande originale complète, c'est à ce moment-là de la carrière, bien entendu, c'est Ennio Morricone, en attendant qu'il fasse exactement ce qu'il aurait fait lui. Donc voilà, il y a un truc qui est très intéressant là-dedans, à noter que les morceaux les plus représentatifs du style Morricone ne sont pas retenus à l'écran dans The Thing et seront réutilisés par d'autres cinéastes. On pense notamment à Tarantino, qui pour les besoins des 8 salopards va réutiliser certaines pistes non utilisées par Carpenter à l'époque pour The Thing. Voilà. Après, bon, voilà, c'est pas une nouveauté, hein. Ça j'avais déjà expliqué, notamment quand j'avais chroniqué Once Upon a Time in Hollywood, où je m'étais permis de faire vraiment un épisode quasiment spécifique sur Tarantino, hein, que je vous conseille d'écouter, très très bon épisode, hein. Vous avez vu, je fais bien ma com', hein. Et le titre Reservoir Dogs vient littéralement de cette première scène du The Thing de Carpenter, voilà, donc celle qui se passe dans le chenil, voilà, donc c'est là que vient Reservoir Dogs, et petit clin d'œil aussi à Johnny de Reservoir Vlog, voilà, qui est déjà intervenu ici même, voilà, qui est lui le dernier maillon de la chaîne qui s'inspire à la fois de Reservoir Dogs, plus en faisant un lien avec The Thing. Donc voilà, donc Carpenter va sous-traiter la partition musicale, voilà. À côté de ça, il va avoir, parce que ce film est un régal, et c'est pour ça aussi j'en parlais du côté barbare de la chose quand je parlais de ce que font les plateformes de VOD, d'essayer de copier un process qu'elles ne comprennent pas. Un film comme The Thing, c'est la convergence d'énormément de choses. C'est peut-être l'un des rares films de Stephen King. C'est l'un des rares films de John Carpenter où on sent vraiment la patte d'autres artisans à l'intérieur du film. Il y a vraiment un côté homogène qui peut être lié aussi, hein, à la chose qu'il met en scène littéralement à l'écran. Il y a une homogénéité et vraiment un enrichissement de tous les postes. Et ce qui est pourquoi c'est un régal, c'est qu'on y voit aussi quelque chose qui n'existe plus, hein, parce que maintenant ça se fait, voilà, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, ça se fait par le lobby du compositing hein, sur des softwares comme Adobe After Effects, Nuke ou Flame hein, pour Autodesk, donc c'est-à-dire la gestion de calques et de couches en arrière-plan. À l'époque, c'est ce qu'on appelait des matte painting, donc de la peinture sur verre, ou carrément de la peinture à la gouache directement sur la pellicule avant le tirage optique. Et là, beaucoup de scènes mettant en scène, vous avez vu que je suis en train de chercher mes mots, c'est ça qui est incroyable. Donc, ce que John Carpenter va mettre en scène, quand par exemple on a des plans très très larges, où les personnages vont aux abords du vaisseau spatial et ainsi de suite, ce sont des scènes qui font appel à énormément de techniques poussées à leur paroxysme de l'époque. C'est-à-dire qu'on va avoir une gestion du grand angle très précise, très clinique, selon les directives en fait, du truqueur optique qui était celui des Hitchcock, qui est Albert Whitlock, et qui va lui après peindre directement sur la pellicule tous les abords du vaisseau. On est vraiment sur du travail d'orfèvrerie, et quand on le voit à l'écran, c'est incroyable. Ça amène, et là, ce que je vous dis, le film date de 82, donc on fait le calcul, on est quasiment plus de 50 ans plus tard, ça force le respect, et ça amène une certaine forme de poésie, le tout allié à cette musique d'Ennio Morricone. Quand on regarde ces plans-là, avec ce blanc immaculé, ça force le respect, et ça amène aussi un sentiment incroyable, pour un film où un tiers des scènes sont en extérieur, de réussir le tour de force de faire un huis clos en extérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont fascinantes. Donc, on a ces matte paintings qui sont de leur favori. Le plan de départ qui a fait école, hein, c'est-à-dire que The Thing commence comme Predator commence et comme d'autres films commencent, c'est-à-dire avec un plan dans l'espace. Alors, vous allez me dire, mais Star Wars avait fait ça. Oui, mais un plan dans l'espace avec cette soucoupe qui passe, et cette soucoupe-là, quand elle passe, il faut savoir que c'est une maquette avec des jeux de lumière et qu'il y a eu plusieurs passes qui ont été faites à la prise de vue, qu'après on va compositer. C'est déjà l'ancêtre du compositing, où on va associer les couches après au montage. C'est, quand je parlais de barbarisation, ce sont des process que la rapidité de production aujourd'hui ne permet plus. Et effectivement, si ce film-là est un chef-d'œuvre, si ce film-là est un cas d'école, c'est qu'à l'époque, on leur a donné les moyens et surtout le temps. Voilà. Et ça, c'est important. Voilà, pour ce genre d'effet réalisé à la prise de vue, parce que ça soit les maquettes ou que ça soit la peinture sur verre, il y a ce contact organique avec le matériau en lui-même, et c'est fabriqué à la prise de vue. Et c'est pas pour rien que parce que le film est en tour de force à bien des niveaux, que le travail de Rob Bottin est incroyable. Si on devait prendre un équivalent sportif, ce que fait Rob Bottin dans The Thing, c'est ce que fait Michael Jordan sur un terrain de basket à l'époque, dans les années 90. Voilà, c'est à peu près le niveau. Donc là, j'ai fait un petit point sur les essais visuels, hein. Je suis un peu parti dans tous les sens, c'est ça qui est bien avec ce podcast-là. Déjà, en termes de casting, alors qui c'est qu'on va retrouver au casting? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une dizaine de personnages à l'écran, donc c'est un huis clos entièrement masculin, et chacun doit interpréter, en fait, un scientifique qui vit reclus en fait sur cette base là et c'est aussi quelque chose qui fera école par la suite, hein. Donc c'est-à-dire que ce postulat du huis clos dans une base de recherche en Antarctique avec quelque chose qui est découvert sera la base de pas mal d'épisodes de X-Files et sera la base de plein de films horrifiques tournés dans les années 90 ou même dans les années 80. Alors, pourriez me dire au final, c'est un peu ce que raconte Alien, c'est pas fou, hein. Donc on est un petit peu sur ce type de film-là, ce que va travailler Carpenter, quelle est la nouveauté, bah, c'est la topographie des lieux et l'originalité de son monstre, hein. Voilà, donc c'est exactement ça, mais pour incarner ces personnages-là, où au final, c'est vrai que on pourrait se le dire, autant quand on voit Kurt Russell dans Escape from New York, dans Jack Burton, bon, on identifie clairement qui est le focus, qui est le personnage central. Là, c'est pas aussi évident dès le départ, et c'est un personnage qui va mettre du temps à se détacher. Ce qu'il faut savoir dans le scénario, c'est que le personnage de MacReady, à la base, enfin, il n'y avait pas de personnage qui se détachait réellement. On avait juste des survivants façon Predator, hein, c'est-à-dire voilà, une escouade qui se fait décimer au fur et à mesure, après il n'en reste qu'un. On avait un peu ce délire-là, et c'est vraiment quasiment à la dernière minute, hein, dans le making-of, il est dit que Kurt Russell est ami déjà, parce qu'ils ont déjà fait pas mal de films ensemble, donc c'est devenu un ami de John Carpenter, et c'est vrai que Kurt Russell le conseille un petit peu sur l'écriture, la réécriture du scénario, et ainsi de suite, et c'est que 3 semaines ou un mois avant le début du tournage, de la prod en elle-même, qu'il est décidé que Kurt Russell interpréterait le personnage de MacReady, qu'on va le mettre en exergue au fur et à mesure pour en faire le héros. Voilà. Donc, au niveau du casting, on retrouve Kurt Russell, qu'on ne présente plus, hein, parce que ça fait déjà 3-4 épisodes que j'ai présenté Kurt Russell. Dans les rôles de soutien, alors je vais pas tous les nommer, parce que voilà, c'est pas le but, il y en a une dizaine. Je vais plutôt faire ressortir ceux qu'on a vu un petit peu à droite à gauche et qu'on reverra par la suite. Alors déjà, on a l'acteur Keith David qui sera un acteur afro-américain emblématique du genre dans les années 80, 90 et ainsi de suite, qu'on a déjà vu dans le Platoon d'Oliver Stone, qu'on reverra, et ça j'en parlerai parce que son rôle est génial dans Invasion Los Angeles. Donc c'est celui qui, aux côtés de l'ancien catcheur, voilà, qui va constituer le buddy movie d'Invasion de Zelive, Invasion Los Angeles, on le verra dans Roadhouse. On le verra aussi parce que normalement, les acteurs qu'on aime bien ici à 7ème dimension, bon, on les retrouve forcément chez Steven Seagal, donc on le retrouvera dans cette joyeuseté, dans ce bijou qui est désigné pour mourir, hein. c'est à lui qu'on doit « Oh mon Dieu, trompe la mort !» quand il voit arriver Steven Seagal. On le verra chez Rémi pour les besoins de Mort ou Vif, il atterrira chez David Towie pour Pitch Black et les Chroniques de Riddick, on le verra chez Aronofsky pour Requiem for a Dream, il fera la voix off, parce que c'est un acteur aussi qui a un phrasé très particulier, donc qui va doubler le personnage de Spawn dans l'animé célèbre, et Jordan Peele n'hésitera pas à faire appel à lui, notamment pour le plus récent Nope, et on le voit aussi dans des séries télévisées comme Community. Voilà, donc une sacrée grosse carrière, là j'ai sorti quelques titres, donc il y en a bien plus, mais voilà, un acteur emblématique du genre. Après, dans les multi-personnages, on peut ressortir aussi l'acteur Richard Mazur, hein, dans le rôle du maître chien Clark, qu'on avait vu dans la première adaptation, notamment télévisée, du Ça de Stephen King, qu'on reverra, que les acteurs comme on aime bien, comme je viens de le dire, quand on les aime bien, forcément, c'est dans du Steven Seagal, on le verra dans Menace Toxique, et avec son physique de prolo américain, il incarnera plein de bons pères de famille, notamment dans ce teenage movie avec les deux Corées de l'époque, dans Plein Pot. Voilà pour les quelques personnes, voilà, à retenir dans ce casting de ce remake de The Thing. Alors, quel est le tour de force principal de ce film-là? Donc je l'ai dit, c'est un film qui, au niveau du rythme, ne débande pas. C'est 1h49 menée tambour battant. Moi, je vais me concentrer dans un premier temps sur la mise en scène de John Carpenter. Pourquoi c'est pourquoi on peut dire que c'est sa masterpiece, c'est son chef-d'œuvre? Parce que il y a un sens de l'efficacité dans la gestion des lieux et des personnages et des champs contre champs qui forcent le respect. Pourquoi ? Parce que on va dire que le défi est multiple dans ce film-là. C'est-à-dire que on a une intrigue qui va jouer sur le fait qu'on a une entité extraterrestre qui est capable d'imiter les formes de vie, donc il va falloir jouer sur le fait que tous ces personnages qu'on nous a présentés sont, à un moment donné, potentiellement la chose. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que ces personnages, il va falloir des fois les séparer du cadre pour pouvoir jouer sur le suspense en disant, est-ce que c'est ce personnage-là, comme on ne le voit plus ou comme il est tout seul, il a été dupliqué ou non. Donc, on va avoir de temps en temps, parce qu'il y a certains plans où Carpenter se fait plaisir dans les jeux d'ombre sur le mur à faire écho carrément à l'expressionnisme allemand, on va avoir un travail sur le fondu au noir pour essayer de créer la tension et le suspense et du coup de poser la question, bah tiens, on voit ce personnage là avec les notes de avec les quelques notes de Morricone, on voit ce personnage là, il est tout seul, bim, fondu au noir, bon, ça peut être potentiellement la chose ou non. De autre tour de force, c'est que ces personnages là, bah des fois il va falloir les réunir. Et du coup, on a quand même une dizaine de personnes par moment dans le champ, et il y a de multiples enjeux, parce que chacun va avoir des affinités avec les uns et les autres, et quand, par exemple, ils vont avoir des doutes sur quelqu'un, il va falloir que la caméra, très rapidement, épouse le point de vue de chacun dans un même espace. Donc tout ça est complexe à gérer, notamment sur un décor qui est constitué de couloirs, donc ça veut dire que c'est assez exigu, c'est pas des pièces amples, c'est plutôt des choses qui vont être assez resserrées. Il va falloir quand même se démerder pour que la caméra elle puisse pivoter, épouser chacun des angles, tout en respectant les règles de base du cadre, qui sont la règle des 180 degrés, la règle des 30 degrés, ou la règle des 30 degrés, dans un champ contre champ ou dans un changement d'échelle, on va pas devoir trop pivoter ou passer dans un angle. Et ça, c'est un tour de force. Et même si c'est écrit, et même si c'est storyboardé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont storyboardées, mais notamment les scènes à effet, tout ça va évoluer sur le décor. Alors, sachant qu'on a une vraie construction de décor, hein, c'est tourné en Colombie-Britannique, on construit littéralement la station, on y met de la neige, on est quasiment dans un lieu, alors on n'est pas tout à fait en Antarctique, mais quelque part, on est dans un milieu froid, donc les acteurs sont placés dans un vrai décor, et ça c'est appréciable, ça se sent que les acteurs évoluent dans le décor. Certains intérieurs, bien entendu, sont reproduits dans les studios Universal, mais globalement, on a un tournage à 50% sur du vrai en extérieur, dans du dur, et 50% autres dans des décors, mais vraiment reconstitués, donc les acteurs sont vraiment immergés. Carpenter va créer une dynamique de groupe, où le fait déjà de tourner dans ce décor-là, bah, ils sont dans le même contexte que les personnages de l'intrigue, donc c'est-à-dire privés de tout contact avec l'extérieur, donc c'est quand même un tournage qui est assez malin, il y a vraiment... Carpenter, il déploie tout le génie d'un metteur en scène, c'est-à-dire vraiment d'immerger ses acteurs dans la réalité du script. Donc c'est un tour de force sur la gestion des champs contre champs, des raccords et des émotions. Ça a l'air de rien, mais en le revoyant aussi, chaque personnage est caractérisé par rapport à sa fonction, le personnage de Windows, notamment, où chaque acteur va amener, au niveau de la tenue, au niveau de ce qu'il fait, des petites nuances qui fait qu'ils vont se distinguer du tout venant. Voilà. Et ça, c'était pas forcément évident, parce que des fois, par exemple, si on regarde, on a certains acteurs qui physiquement vont assez se ressembler, donc il faut très rapidement comprendre qui est Blair, qui est le vrai scientifique, le chercheur de la bande, qui est le médecin, qui va être le mec qui s'occupe en fait des communications, qui est le pilote d'hélicoptère, donc très rapidement, on a ce côté-là, et bien entendu, comment on sait qu'on est dans un film de Carpenter? Parce que très rapidement, avec deux notes de musique, un cadrage au 2.35, un personnage qui va arborer un sombrero, voilà, on sait qu'on est, quoi qu'il arrive, dans une sorte de néo-western. Voilà, quoi qu'il arrive. Et c'est ça la marque des grands, en fait. Hein, c'est des petits détails qui sont positionnés visuellement dans le film et dans le scénario qui font se dire que, bon, ben oui, très rapidement, on est dans un film de Carpenter. C'est beaucoup de tours de force, hein, ce film. Hein. Déjà, rien que dès le départ, la séquence d'ouverture, si on prend la scène d'ouverture. Alors, bien entendu, moi, je pense que... après, c'est vraiment de la branlette, hein, de critique. Je sais pas si le plan du début avec le vaisseau était forcément important. Parce que au final, ça annule un petit peu ce qui va suivre derrière. Je pense que c'est vraiment de la branlette. Hein. On aurait pu l'enlever pour créer un peu plus de suspense sur le fait de savoir par rapport à cette poursuite dès la séquence d'ouverture. En même temps, je me remets à la place du public à l'époque. En 82, on n'attend pas une chose protéiforme qui pourrait prendre l'apparence d'un chien. Aujourd'hui, quand j'ai découvert The Thing, j'avais déjà vu d'autres choses, donc forcément, bah oui, je voyais la soucoupe, donc je voyais le plan avec cet hélico norvégien qui poursuit un chien, donc je savais très bien que le chien n'était pas entre guillemets ce qu'il paraissait être. Mais cette économie de moyens, et c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que dans ce film-là, il a les coudées franches, tout l'argent va être investi dans 3-4 scènes qui sont destinées à imprimer les rétines à jamais. Et à côté de ça, Il aurait pu se permettre certaines choses, hein, mais il va avoir la même gestion, la même retenue qu'un Spielberg sur les Dents de la Mer, par exemple. Donc, dans cette séquence d'ouverture en très peu de plans, quelques notes de musique, un hélico qui poursuit un chien, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, et ben on a déjà créé l'étrangeté, voilà, en quelques plans. Et pourtant, c'est rien. Et ces plans-là sont d'une maîtrise technique hors pair. Et déjà, la caméra de Carpenter bouffe le cadre. Voilà. J'en ai parlé hein, dans la saga Mad Max de ce qu'arrive à faire très rapidement George Miller dans Mad Max 2 avec ce plan complètement fou de cette caméra qui bouffe l'écran avec ce plan mettant en scène Mel Gibson en train de conduire sa bagnole, sa V8 Interceptor à moitié cabossé. C'est un peu ce que fait Carpenter très rapidement dans ses premiers plans de The Thing. Hein, donc c'est-à-dire que sa caméra épouse le cadre, c'est moi je dis respect quoi. Il y a parmi les multiples choix possibles, il a fait les choix les plus efficaces et les plus évidents très très rapidement quoi. Donc on va parler vraiment mise en scène pure de Carpenter, parce qu'il faut rendre à Carpenter ce qui appartient à Carpenter, hein, parce que c'est vrai que quand moi j'étais ado, on jugeait The Thing sur ses effets visuels, sur ce choc-là. Mais c'est aussi, évacuer ce qui appartient à Carpenter. Le film est ce qu'il est, non pas que pour ses effets visuels. Voilà, il y a beaucoup de films de genre, beaucoup de films d'horreur, où on ne retient que les effets visuels, mais ils ne traversent pas aussi bien le temps. Si le film traverse aussi bien le temps, c'est sur les multiples couches de ce que raconte l'intrigue, et surtout de la gestion de l'espace, et de la mise en scène, et de savoir ménager ses effets. Donc c'est une tension qui monte crescendo, et le choix qu'il a fait, fallait avoir les couilles, on va en parler. Hein. Quand il confie, ce qu'il faut comprendre avec ce film-là aussi, parce qu'il y a le côté un petit peu maverick et prise de risque, c'est-à-dire que Rob Bottin a déjà travaillé avec Carpenter sur The Fog. C'est quand même un mec, quand il travaille avec lui sur The Fog, il a 20 piges. Là, quand on lui confie le budget, parce que quasiment tout le budget va passer dans les effets visuels, quand on lui confie la conception de l'indicible, parce que c'est ça, hein, de l'indicible, pour les besoins de The Thing, le mec a 22 ans. Je sais pas si vous vous imaginez. Le mec a 22 ans et se retrouve en charge de mettre en scène les délires les plus fous qui lui passent par la tête, et il sait même pas s'il est en mesure de le faire. C'est ça le tour de force aussi de The Thing. Parce que dès le départ, on y parle d'une chose protéiforme dans le scénario. Mais en fait, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. C'est vraiment Rob Bottin qui, en discutant en pré-prod avec John Carpenter, va amener cette idée que la chose va évoluer au fur et à mesure du film et qu'on n'a pas une idée précise de ce à quoi elle ressemble. Et il lui fait quelques croquis. Carpenter regarde le truc. Ah, il est séduit direct, hein, parce que c'est ça aussi, la collaboration, le côté artistique de la chose. C'est des coups de foudre entre artistes, c'est des histoires d'amour. Et quelque part, Carpenter, quand il fait appel à Bottin, parce qu'on va remettre un petit peu l'église au milieu du village, qui est Rob Bottin ? Rob Bottin, c'est on pourrait presque dire que c'est un enfant de la balle. Le mec, c'est un ado qui, à l'époque, on va remonter quelques années en arrière, envoie ses dessins, le mec carbure à la SF et tout ça. C'est, alors, si on était dans une époque comme la nôtre aujourd'hui, on le qualifierait d'hypersensible et de HPI. Le mec est un surdoué. À 14 ans, il envoie ses quelques dessins à un autre surdoué qui s'appelle Rick Baker, voilà, qui est une sommité, qui est la sommité des effets visuels. Le mec a 14 ans, donc l'ado impressionne Rick Baker. Rick Baker le prend sous son aile, lui dit bah, tu viens, tu me rejoins. C'est comme ça que ça se passe à l'époque. Le mec, il quitte ses... Enfin, dites-vous bien, il est au collège, quoi, limite. Ouais, mais il arrête ses études et il file chez Rick Baker, il bosse direct. Et pour vous donner l'exemple, il fabrique de l'effet avec lui, et à chaque fois, ils ont des idées en tête, ils font des croquis, ils se disent, bon, ben, comment on va réaliser ça? Et il manie le latex comme Mozart manie les instruments de musique. Donc c'est-à-dire qu'ils écrivent les... Mozart écrivait les partitions, voilà, et puis après, enfin ils composaient, puis après ils se démerdaient pour pouvoir le jouer. Voilà, donc des mecs comme Rick Baker et Rob Bottin, et d'autres, hein, Chris Wallace, j'en avais cité d'autres pour les besoins de l'entre de la folie, et Stan Winston, ces gens-là, et encore que Stan Winston, alors j'aime bien, hein, mais c'est plus des tours de force plutôt techniques que réellement dans le... dans le chara design, dans le character design, etc. Donc là les des Rick Baker et des Rob Bottin combinent tout ça en fait. Et ils font les croquis, et puis après ils se disent bon ben maintenant que j'ai fait ça, comment on va se démerder pour le faire ? Et ils vont utiliser toutes les techniques et en inventer des d'autres en fait. C'est ça qui est fou. Et c'est ça la beauté en fait, le côté artisanal et qui n'appartient à personne d'autre et qu'on a dans The Thing. Donc effectivement, le Rob Bottin, il bosse avec Rick Baker, et à un moment donné, Rick Baker est pris sur le Loup-Garou de Londres. Et il avait signé pour un autre film de Loup-Garou de Joe Dante qui était Hurlement. Et ben qu'est-ce qui se passe ? Le mec il a 19 piges. Rick Baker, il regarde Rob Bottin, hein, à 19 piges, il dit ben tu sais quoi ? Moi je pars faire le Loup-Garou de Londres, tu t'occupes du Hurlement. Et les deux se tirent la bourre, alors qu'ils travaillent ensemble, ils se tirent la bourre. Alors Rick Baker a les Oscars des meilleurs effets visuels pour le Loup-Garou de Londres, pour cette transformation. Le Rob Bottin sur le Hurlement, qui a moins de budget, ne démérite pas. Donc, et là, il tape dans l'œil de Carpenter, qui l'embauche sur The Fog, pour s'occuper de ses marins fantômes. Donc, à partir de là, quand Carpenter, parce que Carpenter, il fait un coup de poker, hein, il prend un jeune de 22 ans, il lui dit, voilà, j'ai tant de budget. Le mec de 22 ans lui dit moi je vois ça, ça évolue comme ça, ça va être fou, voilà, et ça convoque Lovecraft. Carpenter le regarde, lui dit t'es capable de faire ça? Il lui dit non, et il dit mais je vais me démerder. Donc il part de là, il constitue une équipe. C'est la même histoire qu'a pu avoir George Lucas pour le premier Star Wars. Il va dans une université, il voit des mecs un peu fous, ça deviendra ILM. Les mecs disent, bon, voilà, ils regardent le scénario. Et George Lucas leur dit, vous êtes capable de faire ça? Non, mais on va essayer. Et voilà, on y va à l'énergie, et ça passe ou ça casse. C'est ça qui est beau, c'est que ça aurait pu se casser la gueule. Carpenter le dit très rapidement aussi. Hein. C'est-à-dire que au bout d'un moment, quand il voit certains effets visuels au plateau, il est rassuré. Parce que pendant un moment, il se demande si ça va pas être grotesque. Et il voulait éviter à tout prix ce qu'il avait vu dans l'Alien de Ridley Scott, parce que dans l'Alien de Ridley Scott, il y a des choses folles, qui sont les designs de Geiger, mais à un moment donné, on le sent, hein, quand on a un mec dans un costume qui fait l'Alien. Et lui, Carpenter, il voulait éviter ça à tout prix, il voulait pas retaper dans ses films de SF où, à un moment donné, t'as un mec dans un costume. Voilà. Et que je l'aime ou pas, que vous l'aimiez ou non, le Predator de McTiernan, à un moment donné, on n'échappe pas au mec au costume. Alors heureusement, Stan Winston a fait le reste, bon, qui est l'animatronique sur le visage, mais ça reste un acteur dans un costume. Et la force de The Thing, c'est qu'à aucun moment, c'est ça la particularité de ce truc. C'est-à-dire que, et c'est ce dont s'inspirera aussi le blob, hein, de Chuck Russell par la suite, hein, c'est que ça évolue constamment. Donc il y a... Donc, pour vous donner le tour de force du film, alors, un mec comme Rob Bottin, le tournage dure un an et quasiment et 5 jours, exactement. Le mec ne sort pas du studio pendant 1 an et 5 jours. Pendant 1 an et 5 jours, le mec dort au studio. Voilà. Et il fabrique de l'effet sur de l'effet sur de l'effet sur de l'effet. Il fait ça toute la journée. Et pour la légende, le mec se nourrit de junk food, hein, c'est-à-dire de boue qui sont dans les distributeurs des studios Universal. Voilà. Le mec, il mange des pasta box et des barres chocolatées et il carbure à ça. De toute manière, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà, à récupérer cette édition Blu-ray de chez Universal et de regarder le making-of, parce que c'est l'un des rares making-of où on a de la matière. Voilà. Et celui-là est un must-have en termes de making-of, c'est 1h30 d'anecdotes. Et quand vous voyez parler Rob Bottin, parce que Rob Bottin, après, très rapidement, avec l'émergence des effets digitaux, c'est quelqu'un qui va quitter peu à peu le milieu hollywoodien. Donc voilà, le mec est à l'image un petit peu d'une Margot Robbie dans le Babylone de Chazelle. C'est-à-dire que c'est un instant T, il traverse Hollywood pendant quelques années, mais voilà, ça passe. Voilà, comme Margot Robbie dans le film, elle le traverse. Donc, mais effectivement, pour en revenir à Bottine, le mec travaille sans relâche et il finit à l'hôpital. C'est Carpenter qui, à la fin du tournage, dit « Bon, va falloir envoyer ce mec à l'hostoul, hein, ça va pas. » Et le mec finit à l'hôpital pour surmenage. Et quand on le voit dans le... Voilà, c'est là où je raccroche les wagons. Quand vous le voyez parler de ses effets, le mec, on le voit, c'est un doudingue. Il pourrait être l'équivalent de ce Gremlins qui a les yeux qui riboulent dans le Gremlins 2 de Joe Dante. C'est un fou, ça. Mais quand je dis c'est un doudingue, c'est-à-dire que quand vous l'écoutez parler, vous voyez son travail, vous savez que le mec, il est pas au même niveau que nous, en fait. Il est ailleurs. Hein. Ce qu'il a fait, c'est le point d'orgue de sa carrière. Il fera d'autres trucs super cool, hein, mais voilà. Là, ce qu'il a fait marque à jamais l'histoire du cinéma. Même Rick Baker, qui a fait des choses incroyables, il a fait beaucoup de choses, il a été plus constant, mais il n'a pas eu cette pointe de génie et de folie qu'a eu Rob Bottin sur The Thing de John Carpenter. Et pour vous donner le niveau d'attente qu'il y a sur ce film-là, c'est-à-dire que pour un plan millimétré, parce que tout est storyboardé, alors c'est storyboardé par Mike Plug, qui était un auteur de comic book, et l'association entre Rob Bottin, ce qu'il a en tête, à ses croquis, plus le storyboarder Mike Plug, alors je vous invite, hein, il y a un Rokirama qui était sorti sur John Carpenter, et les storyboards se trouvent aussi sur Internet, c'est de l'art, hein, quand vous voyez ces trucs-là. Hein. Donc le storyboard rend compte à la fois de ce qui va être tourné, et aussi des supercheries, et de l'endroit où va se mettre l'animateur, etc. Donc, dites-vous bien que pour un plan, c'est peut-être 10 heures de préparation, acteur compris à l'intérieur. C'est 10 heures de préparation, et quand on l'entend parler, et des fois, c'était pas du one-shot. Parce qu'on cherche le one-shot, hein, pour pas reproduire les 10 heures. Et ben, c'est 10 heures de prépa, et le truc prend feu, et ben, allez, on repartit pour 10 heures. Donc, c'était que ça à chaque fois, en fait. Donc, c'est pour vous donner, le, comment dire, le niveau d'exigence de ces effets-là à l'époque. Alors vous allez me dire aujourd'hui, oui, pour du CGI, c'est des heures. Non, oui, c'est des heures et des heures. Ces équipes qui se multiplient, c'est pas la même Kaamelott, c'est pas pareil. Là, on était dans la R&D, c'est la recherche et développement. C'est-à-dire que les gens expérimentent sur le plateau. Petite anecdote qui est présente, alors c'est pour pas paraphraser le documentaire, mais c'est pour donner une image du niveau où on est dans la recherche et développement. C'est-à-dire que dans une des scènes, parce qu'il y a pas 36, hein, il y a la scène du chenil, il y a la scène de la réanimation. Donc on va avoir la scène du test sanguin, et après on a la scène finale. Donc c'est 4, on va dire, après il y a des petites scènes à effet, mais c'est 4 grosses scènes à effets spéciaux. Mais pour la scène de la réanimation, on va avoir un personnage qui se fait amputer des deux bras, le torse s'ouvre, ça le bouffe, après il y a la tête qui se détache, notamment pour le plan de la tête qui se détache avec ses filaments au niveau du cou, hein, parce que c'est carrément de l'indicible qui est montré à l'écran, hein, c'est ça le tour de force. Ce qui se passe au niveau du cou, voilà, le Rob Bottin l'explique, que bah, il avait utilisé certaines matières, voilà, qui étaient, et il explique que finalement l'association des deux matières, voilà, qu'il y avait de la gélatine et pas mal de choses, c'est quasiment de l'explosif, c'est quasiment du napalm en fait, mais il s'en est pas rendu compte. Et c'est vrai que Carpenter, à ce moment-là, explique que ben, c'est censé être en feu à l'arrière-plan, voilà, de la scène, dans les plans larges. Donc pour le raccord de ce plan-là, qui va être un plan serré sur la tête qui se détache, ben, il faudrait peut-être mettre un peu des flammes en amorce, voilà, pour qu'on fasse le lien. Et à aucun moment, Rob Bottin percute que son effet spécial utilise une combinaison de choses qui, associées à ce départ de feu, pourrait tout faire péter, en fait. Et effectivement, il explique bien dans le documentaire que voilà, il y a un des responsables des effets visuels, mais plutôt pyrotechnique, qui arrive, qui met ça au premier plan, etc. Il commence à allumer sa petite rampe qui va dégager du gaz et qui va l'enflammer, et qu'au moment où il allume son briquet, quasiment, eh ben il y a tout qui pète en fait. Il y a tout qui pète, parce que toute la matière organique qu'avait reproduit en fait Rob Bottin était un mélange de gaz et un mélange de matière enflammable, et en fait ces 10 heures de préparation explosent littéralement à l'écran. Il y a tout qui brûle derrière, et tout le monde vient éteindre la scène, et tout le monde il t'explique ça avec le sourire le sourire de sale gosse qui fait des bêtises, hein, qui joue avec des fils électriques, etc. C'est pour vous donner le niveau des gens qui avaient sur le plateau. C'était des fous. Voilà, donc en gros, il t'explique, c'est un petit peu ce qui est arrivé aussi à Francis Ford Coppola sur le tournage d'Apocalypse Now, c'est-à-dire que les gens sont en pleine possession de leurs moyens, et à un moment donné, peu à peu, ils deviennent un peu fous, voilà, à tourner ces trucs-là. Donc c'est une réunion de fous, voilà, qui permet l'improbable et l'incroyable, voilà. Et c'est pour ça que refaire un film comme The Thing est impossible. Voilà, il faut faire autre chose par d'autres moyens, mais en tout cas, ce film-là est un tour de force pour ce qu'il montre à l'écran, donc c'est du Lovecraft adapté visuellement par un artiste fou, filmé par un metteur en scène en pleine possession de ses moyens, et ça débande pas une seule seconde, ça joue sur la paranoïa à tous les niveaux, on est enfoncé dans son canapé, on assiste à ce truc-là, même encore aujourd'hui, quand je le regarde, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je dis, c'est un chef-d'œuvre instantané, on le regarde, c'est à l'équivalent d'un zombie de George Romero, voilà. Il y a des choses comme ça qui se passent. C'est ce que je disais dans la dernière chronique, hein, pas pour me paraphraser, mais dans la dernière chronique sur la quadrilogie Mad Max, notamment sur Fury Road ou Mad Max 2. Est-ce que les gens ont conscience de ce qu'ils font à ce moment-là? Alors, je sais qu'ils cherchent un certain level, donc, mais je crois pas, ils se rendent pas compte de l'impact de ce que ça va avoir par la suite. On a bien compris que, enfin voilà, pour vous qui m'écoutez et moi qui suis en train de parler dans le micro, que voilà, c'est un chef-d'œuvre, c'est un monument du cinéma de manière globale et une masterpiece dans le genre dans lequel il s'inscrit. Ce qui est dramatique là-dedans, parce qu'il y a du drame là-dedans, ce qui est dramatique là-dedans, c'est que c'est un film qui ne trouve pas son public à l'époque, et que c'est déjà la première alerte dans la carrière de John Carpenter, c'est ce qui va le fragiliser, c'est-à-dire que vous avez compris que le mec donne tout, voilà, il donne tout jusqu'au bout, et au final, ça ne porte pas ses fruits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que film de Carpenter oblige, c'est un film qu'on pourrait qualifier de nihiliste, et pourquoi ça ne marche pas dans l'époque 82? Remettons en place le film dans cette époque. En 1982, débarque Mad Max 2, débarque Blade Runner, notamment, c'est une année folle. Hein, et la problématique, parce qu'il faut expliquer un petit peu le changement sociétaire, donc on a une époque où s'opèrent des changements gouvernementaux au niveau des États-Unis, et c'est surtout que débarque un film comme E.T. Et E.T. Était le film que voulaient voir les spectateurs à l'époque. Donc en fait, on a deux films d'aliens qui débarquent, il y en a un qui est quasiment un conte de fées, et l'autre qui est le film de ton daron, quoi, qui est un truc un peu rude, un peu âpre, il n'y a pas d'espoir, donc c'est l'espoir contre l'absence d'espoir, et très rapidement, en fait, le public va fustiger ce film-là, et le prendre en grippe, alors que c'est un film qui est fait avec amour, avec passion, mais le public se prend la Spielberg mania dans la gueule, et c'est le rejet. Voilà la problématique. Hein. Voilà cette problématique-là que se prend le film, et jusqu'aux critiques. Hein. C'est-à-dire que les critiques le défoncent, et en fait, ce film est utilisé pour traduire tout ce qui va pas, genre, ou tout ce qui va plus dans le cinéma, et Carpenter est quasiment montré du doigt. Je sais pas si vous imaginez, c'est un petit peu comme, je sais pas moi, un couple qui aura un enfant, et qui présente un faire-part de naissance, et que tout le monde se fout de la gueule de la tête de l'enfant, en fait. C'est très 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 rude à prendre, sachant que, faut remettre les choses dans son contexte, hein, Carpenter avait enchaîné Escape from New York et ce film-là coup sur coup, c'est un an tournage, c'est comme si Peter Jackson se prenait une veste quand la communauté de l'anneau sort. C'est très 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 dur à digérer, et n'oubliez jamais qu'un artiste, quand il donne de lui-même, parce que quand je vous dis l'analogie entre le fait que un film est quasiment l'enfant de son réalisateur, c'est ça en fait, hein. C'est comme s'il s'exposait tout nu face aux gens, et c'est la première déconvenue critique qu'il se prend, et c'est une pilule qui est dure à avaler en fait, hein, pour Carpenter. C'est pour moi un drame, c'est un drame parce que si ce film avait marché, on ne peut que imaginer ce qu'aurait pu donner la carrière de John Carpenter. Voilà. Sauf que ça ne marche pas, et ben écoute, ça appartient à l'histoire. Voilà, comme je l'ai dit précédemment hein, sur ces trucs de la trilogie, de la terreur, machin, tout ça, non, c'est pas un truc qui est prévu. Ça se casse la gueule. Voilà, si The Thing avait été accepté, je crois pas qu'on ait Prince des Ténèbres et l'Antre de la Folie tels qu'ils existent aujourd'hui. Voilà, on aurait un réalisateur qui serait parti sur autre chose. Peut-être qu'il aurait fait ce fameux western qu'il a toujours voulu faire, un vrai western avec des vraies têtes d'affiche, peut-être. Peut-être qu'on aurait eu l'équivalent d'un pitoyable avant son heure. Hein, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne peut qu'imaginer. En tout cas, c'est catastrophique. Donc le film, voilà, c'est là où on vous entend un peu d'ASMR. Hein, je prends mes petites notes. Donc c'est 15 millions de dollars de budget, c'est 3 millions de manière mondiale, un truc rapporte 3 millions, donc ça perd des thunes, et puis on lui reproche tout, quoi, c'est-à-dire c'est trop nihiliste, d'ailleurs le final, on pourrait se poser la question, ça c'est une question que je vous pose, et j'ai l'impression au final que cette fin ouverte où deux personnages survivent, on ne sait pas qui est la chose, et le fait que les deux trinquent ensemble, j'ai presque l'impression que John Carpenter fait son Rencontre du Troisième Type en un seul plan à lui. C'est sa réponse à Rencontre du Troisième Type en un seul plan. C'est-à-dire un personnage carpenterien qui est incarné par Kurt Russell, qui trinque quasiment avec l'indicible. Voilà, c'est sa vision un peu de Rencontre du Troisième Type. Voilà, je vous soumets l'hypothèse. En tout cas, moi, ça me plaît de penser qu'il l'a fait comme ça. Ça se plante sévère. Et Carpenter sera obligé de faire amende honorable, parce que c'est un peu comme ça qu'il faut voir les deux films suivants, avec Christine et surtout Starman, qui sera son gentil film de E.T., pour dire, voilà, bonjour, il le dit lui-même, hein. Regardez, moi aussi, je sais faire un truc à l'émotion, parce que c'est un peu ça, Carpenter. C'est un peu ça qui me fait aimer aussi Carpenter, c'est que c'est très humain, en fait. C'est un réalisateur qui est très, très, très humain, parce que ça parle que de ça, hein. Ça parle, son cinéma parle d'émotion en sous-couche, hein, parce que, vous avez vu, hein, j'ai évacué dans ma chronique de The Thing toutes les analogies sur le sida par rapport au test sanguin et tout ça, l'Union soviétique, la guerre froide, tout ça, voilà. Ça a déjà été dit, et de bien meilleure manière que par moi-même, hein, par d'autres critiques, de journalistes, etc. Donc voilà, moi j'ai essayé d'amener, comme d'habitude, autre chose dans ces chroniques sur John Carpenter, et j'espère qu'une fois tout mis bout à bout, parce qu'on arrive à peu près à chaque fois sur une heure, que si vous ayez envie de découvrir ce podcast, que vous le découvriez par l'ornière de mes chroniques de John Carpenter, et vous dites, putain, en fait, le gars, il a fait 20 ou 30 heures sur John Carpenter. Donc voilà, ce film est un bide. Carpenter est obligé de courber les chines pour essayer de revenir. Voilà, moi j'ai raconté la suite dans Jack Burton, hein, la suite de sa carrière. Quel est l'héritage de The Thing ? L'héritage, il est multiple. Donc, il redéfinit ce qu'est le huis clos horrifique. Et quelque part, Reservoir Dogs, Les 8 Salopards, Tarantino, c'est The Thing sans la chose, si vous voyez ce que je veux dire. Pas mal de séries B, de type Virus, tiens. Voilà, okay. Avec Jamie Lee Curtis notamment, paie son tribut à The Thing, donc on a eu des sous-The Thing dans tous les sens. Donc ça a redéfini un peu le game en termes de cinéma horrifique. C'est aussi l'explosion des effets prosthétiques, voilà, donc c'est l'explosion d'un art qui, on va pas se le mentir, manque aujourd'hui, hein. Voilà. Moi j'aimerais que des réalisateurs d'aujourd'hui, hein, tiens, des Del Toro, des Nolan, reviennent aux prosthétiques un petit peu et mélangent par petites touches, voilà, par petites couches, en mettant du numérique par-dessus, parce que ça manque, parce que on sent bien que les acteurs ne savent pas devant quoi ils tournent, en fait, aujourd'hui. Seul Cameron a réussi, avec Avatar, à faire en sorte que les acteurs voient à peu près ce qui se passe à l'écran et sont inclus dans le process, mais bon, comme je l'avais dit dans Avatar 2, pour raconter quoi, au final ? Pas grand-chose, voilà, c'est ça qui est dommage, hein. Donc on verra ce que donnera la suite de la carrière de Cameron avec ses Avatars, mais j'ai peur que, hormis le défi technique, il n'y ait plus grand chose à raconter. Donc bon, bref, on verra. Donc voilà, voilà, ça définit ce que sera le cinéma gore et le cinéma à effet, hein, et des gens comme Cronenberg avec La Mouche et ainsi de suite, hein, on peut dérouler, hein, vont s'inspirer, hein, du travail de Carpenter. Tout le monde s'en a inspiré. C'est pour ça que c'est une injustice que ce film-là n'ait pas marché, hein, à l'époque. Et bon, ça a trouvé son public plus tard, mais ça commence à devenir un running gag avec Carpenter. Il en est même blasé que bon, ben voilà, ces films trouvent son public 10, 15, 20 ans après, en fait. Donc, les mêmes qui lui ont tapé sur les doigts, parce que là, ça, c'est un crime de lèse-majesté, les mêmes qui l'ont fustigé à l'époque, eh ben, s'engouffrent avec les yeux injectés de dollars dans cette vague de remake qui aura lieu au début des années 2000, voilà, lancée par Michael Bay, hein, notamment avec le remake de Massacre à tronçonneuse, de Vendredi 13, eh ben, ils vont remaker The Thing. Bon, ben voilà, remaker, alors. Ils vont remaker, rebooter, c'est une préquelle en fait, mais bon, voilà, il y a des choses à pas toucher, voilà. Et je vais pas vous mentir, moi je l'ai pas vu, rien que pour ça, parce que je trouve ça tellement inutile. Le film appartient tellement à son époque et à ses effets que faire un remake de The Thing avec des effets digitaux, parce que c'est ça le point de départ, hein, ça n'a aucun sens. Hein. Donc ils se sont maquillés, ils ont fait un peu ce qu'ont fait certains, c'est-à-dire raconter l'avant. Est-ce qu'on a besoin de raconter ce qui s'est passé dans le camp de Norvégien, comme monsieur Ridley Scott, ce qu'on avait besoin de raconter, d'où venait le vaisseau d'Alien, voilà. Donc voilà, donc il raconte ce qui se passe dans le camp des Norvégiens. On confie ça, alors attention, à un mec, un néerlandais, donc qui a quasiment rien fait, hein, je vais essayer de prononcer son nom. Matthijs van Ingenig Junior, voilà, donc le mec a un truc, Ingenigen, voilà, il a un nom imprononçable, donc on confie un moyen budget à ce mec-là, des effets visuels. Bon, ça, de ce que j'en ai vu, ça a l'air honnête, mais ça n'a que très peu d'intérêt. À noter que au casting, on y retrouve la Mimi, Marie-Elisabeth Winstead, hein, qu'on avait déjà vu dans Die Hard 4, donc en fille de John McClane, dans Scott Pilgrim, donc dans 10 Cloverfield Lane, et dans Boulevard de la Mort de Tarantino, et puis on lui met aussi, dans cette opposition masculine, Joel Edgerton, voilà, qu'on a vu dans Warrior, donc qu'on a vu aussi dans la prélogie Star Wars, en tant qu'oncle Wade, voilà, qu'on reverra d'ailleurs dans Obi-Wan aussi. Et du coup dans Exodus du même Ridley Scott, donc voilà, donc on n'hésite pas à remaker les films, j'en ai déjà parlé ça dans le précédent de Carpenter, voilà, donc les mêmes qui lui avaient tapé sur la gueule, remake, et ben c'est bien fait que ça rapporte pas beaucoup de thunes, et puis au passage, comme l'avait dit Carpenter, parce qu'on lui avait posé la question, notamment dans Rockyrama, je crois que c'est dans le Rockyrama sur Carpenter, pourquoi il laissait faire ses remakes de Fog et The Thing, et ben comme il l'a dit, et ben ça lui permet peut-être d'avoir un retour sur investissement avec le temps, parce que voilà, il reste, c'est un producteur qui est pas exécutif, si vous voyez ce que je veux dire, il met son nom, il prend sa valise de billets au passage, hein, ce qu'il a fait sur les nombreuses suites d'Halloween, et ce qui lui permet aussi, on va pas se mentir aujourd'hui, de couler une retraite heureuse et de se concentrer sur la musique, voilà, ça c'est une fin de carrière aussi qui est intéressante, hein, voilà, donc d'être devenu, d'avoir accès qu'il ait été cette source d'influence de toute une vague de musique qu'on appelle la rétro-wave, hein, de Carpenter Brut à M83, Kevin Steele, etc., et qu'il accepte enfin ce postulat, c'est une jolie fin de carrière pour ce réalisateur-là, et comme d'habitude, hein, j'ai été très heureux de traiter de ce film The Thing, et je le serai sûrement de traiter les autres films de Carpenter, donc rappel des faits, comme d'habitude, voilà, on a traité The Thing, un monument de la science-fiction, de l'horreur cosmique, une pépite, un film culte, et bien entendu c'est du cinéma de genre, et comme on en a l'habitude ici à 7ème dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre, bordel. Merci pour votre écoute. We'll be right back.
maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...
Septième dimension en mode podcast.